La mort fait déjà partie du passé. Tel est le thème de notre méditation, de notre culte d'aujourd'hui. Et nous allons lire le texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. Au nom de Jésus. Nous prêchons donc que le Christ est revenu de la mort à la vie. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne reviendront pas à la vie? Si c'est vrai, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas revenu à la vie, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu, puisque nous avons affirmé qu'il a ramené le Christ à la vie. Or, il ne l'a pas fait. S'il est vrai que les morts ne reviennent pas à la vie, car si les morts ne reviennent pas à la vie, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas revenu à la vie, votre foi est une illusion et vous êtes encore perdus dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Amen. Nous savons tous que lorsqu'on n'a pas encore vu un film ou ni lu un bon roman, alors qu'un de nos amis nous les recommande, est-ce que tu as déjà vu le film tel, est-ce que tu as déjà lu le livre sur tel sujet, à la fois nous sommes curieux de savoir ce qui en est, mais nous ne voulons pas aussi gâcher notre plaisir en demandant la fin de l'histoire. Sinon, cela ne servirait plus à rien d'aller voir le film ni de lire le roman. Pourtant, c'est ce qui se passe ici aujourd'hui dans le texte. Et là, parfois aussi, dans la vie de tous les jours, il y a quelques auteurs qui arrivent à capter l'attention de ses lecteurs aujourd'hui, c'est le nouveau style littéraire, de capter ses lecteurs en commençant son livre par la fin. Et l'histoire est comptée à rebours. Cela semble si moderne et peut-être nouveau, mais je pense que la Bible les a déjà devancés bien avant. Et là, je profite l'occasion de dire, la Bible n'appartient pas qu'aux chrétiens. Je peux dire que la Bible fait partie de la littérature publique, ouverte à tout le monde, disponible même pour les non-croyants. Mais seulement la question qui se pose vis-à-vis des textes bibliques, et je reprends la question de Jésus lui-même qui avait dit dans Luc chapitre 10, verset 26, « Comment lis-tu les textes ?» Nous, chrétiens, nous lisons la Bible à partir de la fin et non à partir du début de Genèse chapitre 1. Nous lisons la Bible à partir de la mort de Jésus-Christ. Nous comprenons la Bible à partir de la résurrection de Jésus-Christ et en fonction de cela que nous comprenions même le récit de la création. Et non à partir de l'histoire de la création. Luther, par exemple, lui, il avait bien mis l'accent là-dessus que la mort de Jésus et sa résurrection est la clé de la lecture de la Bible. Sans cela, la Bible devient un simple roman. Et si nous n'avons pas compris que la résurrection est la clé de lecture, nous aurions tout faux. Et nous allons suivre à la lettre des choses que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous inviter à lire d'autres références supplémentaires qui vont nous aider à lire ce texte que nous propose le lectionnaire. Le premier texte, c'est dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Matthieu chapitre 27, Versets 50 à 54. Au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux morts du peuple de Dieu qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. L'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent, il est vraiment le Fils de Dieu. La deuxième lecture dans Jean chapitre 5, versets 25 à 29. Jean chapitre 5, versets 25 à 29. Au nom de Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient et il est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père possède le pouvoir de donner la vie, de même il a accordé au Fils le pouvoir de donner la vie. Et il a donné au Fils le droit de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Amen. Voyez ces deux textes. Peu de gens le connaissent, qu'au moment où Jésus a rendu son dernier souffle, il y avait eu des morts qui sont sortis de leur tombeau. Souvent, pendant la Semaine Sainte, on fixe notre regard sur la souffrance de Jésus, c'est vrai. Mais il y avait déjà la résurrection. Au moment où Jésus a dit, tout est accompli. Des tombeaux se sont ouverts. Des morts sont sortis. Et les gens ont témoigné qu'ils ont vu certains de leurs membres de famille qui étaient décédés depuis des années. Ils revinrent dans leur ville. Impressionnant. Dans le premier texte, dans Matthieu, au moment où Jésus a rendu son dernier souffle, quelques tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent, dit le texte. Et après leur réveil, ils entrèrent dans la ville sainte. On dirait déjà une préfiguration de ce qui va aller se passer au jour de la parousie, le jour où le Christ reviendrait. Et regardez bien, qui sont ces personnes-là? Ce sont les saints, c'est bien écrit. Ce sont les saints de Dieu qui sont revenus à la vie, c'est-à-dire les hommes et les femmes de Dieu. Dans le deuxième texte parle aussi que des morts vont sortir des tombeaux. Jusque-là, ce n'est pas étonnant comme annonce. Mais si on pose la question, quand est-ce que cela va arriver? Nous, parfois, on croit que ce sera plus tard, le jour où Jésus reviendrait. Mais ici, c'est maintenant que ces morts sont revenus à la vie, d'après le texte. Ce n'est pas du tout plus tard, lors du jugement, mais maintenant que ces gens sont revenus à la vie. Alors, prenons ces deux références pour analyser maintenant notre texte de ce matin, notre péricope qui est proposé par le lectionnaire. La compréhension de la résurrection face à la mort est totalement extraordinaire. C'est que la résurrection est déjà passée et non à venir, chers frères et sœurs. Nous n'attendons plus la résurrection. Ceux qui croient en Jésus sont déjà ressuscités en Jésus. Et c'est pour cela que la mort est derrière nous. La mort n'est plus devant nous. Et c'est pour cette raison que les croyants n'ont pas peur de la mort. C'est que la résurrection est déjà passée. Or, nous sommes habitués à entendre « Ah, le jour de notre résurrection, quand est-ce que ça va venir ?» Donc la mort n'est plus devant nous, elle est déjà derrière nous. Et l'apôtre Jean parle beaucoup aussi dans ce sens dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 3, verset 14, la première partie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. L'apôtre Paul aussi, lui, il va encore plus loin, nous invitant à crier victoire. Il dit la fameuse phrase, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton pouvoir de tuer ?» 1 Corinthiens 15, 55. Peut-être certaines personnes pensent que Paul est tombé dans un excès de zèle et ose défier la mort. Il ne défie pas la mort. Non, pas du tout. Ce n'est pas un cri de guerre face à la mort, c'est un cri de victoire. Déjà acquise. C'est pas quelqu'un qui essaie d'être positif face à la mort. C'est ce qu'on dit parfois face au deuil. Allez, sois fort. Mais il crie victoire parce qu'il est déjà ressuscité. Cela, je pense, a un impact énorme dans notre positionnement face à la vie éternelle et face à la mort. Jésus est clair dans sa parole, dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne dit pas celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Au moment où il croit, il a la vie éternelle. Il est déjà transféré dans le royaume de Dieu tout en étant encore ici-bas. Alors la vie éternelle n'est ni un lot. La vie éternelle n'est pas un prix. La vie éternelle n'est pas une récompense que nous attendons à la fin d'une année scolaire ou d'une année académique, comme si celui qui a bien appris ses leçons va avoir des récompenses. Non, la vie éternelle, nous l'avons déjà, maintenant, ici-bas, et nous sommes aussi déjà ressuscités en Christ. Le chrétien ne doit pas avoir des doutes alors sur son salut. Sinon, la vie après la mort deviendrait un peu la roue du millionnaire. Est-ce que je serai sauvé ou pas? Ça dépend de l'aiguille. Sur quelle partie du bouton ça va s'arrêter? Non, il faut avoir une garantie. Et j'ai bien aimé l'expression utilisée par Paul. Nous avons la garantie dans la résurrection de Jésus. Et quand le Christ dit oui, c'est le oui en béton. Ce n'est pas comme le nôtre, ouais. Tu viens avec moi? Ouais. Ce n'est pas sûr, hein. Ça dépend s'il ne pleut pas, s'il fait beau, si je suis disponible, si je ne suis pas malade, si j'ai le temps, oui, je viendrai. Mais quand le Christ dit oui, ça veut tout dire. Le oui de Dieu ne change pas. Et Paul est très clair là-dessus. Votre foi ne se repose pas sur l'illusion. Et c'est sur cette base-là, parfois, que les non-croyants nous attaquent. Ils disent, votre foi, finalement, se repose que sur une quelconque promesse. Vous croyez en une promesse de la vie éternelle? Et si jamais ce qu'on vous a promis depuis le catéchisme, depuis votre enfance, n'existerait pas, est-ce que vous êtes sûr que ce qu'on vous a enseigné est vrai? Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Que vous vous êtes trompé? C'est les remarques que les gens nous disent. Et alors, nous, avec notre ferveur piétisme, nous montons aussi d'un cran en disant « Non, mon Dieu ne me décevra pas, j'en suis sûr. » Mais quelque part, on se dit « Ah, et si jamais ?» Mais pour ceux qui ne croient pas, ce n'est qu'une affirmation gratuite. Elle ne se repose que sur une promesse. Et c'est vrai, si nous nous mettons un peu une minute à leur place, ils ont un peu raison. C'est risqué et ce n'est pas du tout rassurant si ma foi ne se base que sur une promesse. Mais notre espérance ne se repose pas sur une promesse à venir, chers frères et sœurs, mais sur une réalité déjà passée, une réalité concrète. Et c'est quoi cette réalité concrète? Jésus ressuscité. Ça, c'est concret. Ça, c'est sûr. Donc, c'est plus une promesse, c'est une réalité. Regardez le verset 20 de notre texte de tout à l'heure. Il est dit, « Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. » Paul utilise le terme « garantie » Et quelle est cette garantie? Jésus qui a été vu par des centaines de témoins, et c'est exprès annoncé dans les évangiles que le Christ s'est apparu aussi à plus de 500 personnes en dehors des disciples. Pour dire que ce n'est pas juste une histoire que les disciples ont créée pour semer le doute. Alors, quelle perle précieuse ce que Paul dit ici au verset 16 et 17. Car, écoutez bien, c'est impressionnant comme phrase. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. J'ai lu ce texte, je l'ai relu, j'ai dit, il y a un problème dans la construction de phrase. Je me suis dit, est-ce que cette phrase est correcte? Dans le sens logique, normalement, si le Christ n'est pas ressuscité, nous aussi, nous ne serons pas ressuscités. Mais il dit ici, si les morts ne ressusciteront pas, le Christ ne ressuscitera pas aussi. Est-ce que la résurrection du Christ dépendrait de la nôtre? Ça doit être le contraire, non? Si le Christ n'est pas ressuscité, nous aussi, nous ne ressusciterons pas. Voilà la logique. Or, ici, il dit, si les morts ne ressusciteront pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, Paul a fait exprès de faire une erreur. Mais c'est fait exprès, cette formulation de phrase, pour nous dire que désormais, celui qui croit en Jésus, sa vie est liée à Christ, et que même dans sa mort, il n'est pas seul. C'est ça la bonne nouvelle. Même dans ma mort, dans ta mort à venir, tu ne seras pas seul dans la mort. Tu seras enseveli avec le Christ. Romains chapitre 6, verset 4. Parfois on se dit, c'est palpitant, ça fait peur parce que je vais traverser tout seul le fameux couloir de la mort. Non, tu seras avec lui. Ce n'est pas qu'il sera de l'autre côté pour dire, je suis ici, je t'attends. Il est avec toi. Il traverse avec toi ce moment. Alors la mort corporelle n'est même pas ce que nous croyons que la personne est allée, oh, il est allé rejoindre son Seigneur. Il est avec son Seigneur. C'est différent. Et cette image bien décrite par Matthieu est capitale, je crois, pour ma foi et ta foi, que Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire dans les séjours des morts. Il est parmi eux. Il ne les attendait pas en haut. Il est descendu au séjour des enfers. Il n'y a pas de coupure ou de moment d'attente, comme s'il fallait patienter un peu pour voir enfin Dieu après quelques années ou quelques siècles. Le séjour des morts n'est pas une salle d'attente, comme chez le dentiste ou chez le médecin. On attend notre tour, le numéro qui sonne. Rappelons-nous de ce que Jésus avait dit au brigand qui était à sa droite, Luc chapitre 23, verset 43. « Je te le déclare, c'est la vérité. » Et quand Jésus utilise cette formule, en vérité, ça veut dire que c'est sûr. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne dit pas, plus tard, on se reverra. Aujourd'hui. Et puisque nous sommes liés à Christ, même dans la mort, lui qui a déjà vaincu la mort, logiquement, sans aucun doute, nous ressusciterons aussi avec lui. Toujours ce mot « avec » qui est très important dans ce texte. Et ce mot « avec » revient très souvent dans les récits de la résurrection. Le Christ partage tout avec nous. Il partage aussi notre mort. Il l'a pris pour sien. Mais ce partage va aussi dans l'autre sens. Grâce à sa résurrection, la seule chose que nous n'avons pas encore aujourd'hui, c'est le corps céleste qu'il nous a promis plus tard. Et notre lectionnaire s'est limité au verset 20 pour aujourd'hui, mais si vous avez le temps chez vous, lisez jusqu'au verset 40. En allant jusqu'au verset 40, il est mentionné, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes en ont un éclat différent de celui des corps terrestres. Voilà le corps incorruptible qui t'attend. Le corps que Jésus avait, c'est ce corps-là qu'il va te donner. Et rappelons-le au passage, ce corps de Jésus n'est pas un corps qui vient de la poussière, puisque c'est l'acte du Saint-Esprit qui a permis l'incarnation. Et déjà ce corps, il vient d'en haut et non pas d'en bas. Et comme annoncé au tout début de cette méditation, si notre lecture de la Bible se fait à partir de la mort et de la résurrection du Christ, alors tenons cette parole de l'Épître aux Hébreux dans la foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Amen.